Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la colère des agriculteurs européens au lendemain de la signature d'un traité Union européenne-Mercosur, les exigences du régime nord-coréen qui ne saurait se contenter d'un tweet de Donald Trump pour éventualiser une rencontre avec son leader Kim Jong-un, un reportage au cœur de la marche des fiertés de Paris dédiée à la PMA pour toutes les femmes et un sommet de la CEDEAO au Nigeria qui se repose la question d'une monnaie commune et donc de la fin du franc CFA. Accolade nourrie entre négociateurs sud-américains et commissaires européens hier soir à Bruxelles lors de la signature du traité Union européenne-Mercosur, à savoir Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay. 20 ans de négociations qui aboutissent, un marché de 800 millions de consommateurs. Alors, euphorie, l'Europe va pouvoir exporter voitures, produits chimiques et pharmaceutiques et en contrepartie ouvrir ses portes aux exportations sud-américaines de sucre, d'éthanol, de bœuf ou encore de volaille. Euphorie à laquelle ne goûtent que très peu les agriculteurs européens. Incompréhension et colère générale des fermes bavaroises au GAEC breton. Baptiste Gatouya est vice-président des jeunes agriculteurs en charge des questions d'environnement.
En fait, ce qu'on craint, c'est toute cette concurrence déloyale que l'on a. Alors, on avait demandé à ce qu'il y ait des garanties en termes de normes environnementales, on les a, mais on a aussi tout ce qui est normes sociales, fiscales, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en Amérique latine. Alors déjà, à l'intérieur de l'Europe, on a du mal à harmoniser. Et là, on se retrouve avec une concurrence encore plus déloyale et qui sont en capacité, avec un coût de main-d'œuvre bien moindre et une fiscalité avantageuse, d'arriver avec des produits au même prix que les nôtres et avec un système de quotas, on sera obligé de les prendre. À titre d'exemple, de l'éthanol qui pourrait être importé ou du sucre qui pourrait être importé en Europe, si demain la France interdit le glyphosate, et ben il faut aussi que ce soit interdit au Brésil, alors qu'on sait très bien qu'il ne sera pas interdit au Brésil et qu'il est utilisé 12 fois plus grande quantité sur la même surface qu'en France. Donc voilà, il y a une vraie distorsion de concurrence environnementale et sociale. Donc ça, c'est pas un accord que l'on peut accepter dans le monde agricole. Il y a une vraie distorsion de concurrence. On est dans un marché agricole qui est en crise et on a déjà du mal à pouvoir exporter nos productions, voire même les faire consommer sur le marché intérieur. Et là, on va faire introduire de nouvelles matières. Donc ça, on comprend pas du tout le sens de cet accord commercial, notamment sur l'agriculture. On peut comprendre que sur d'autres industries, il y a besoin d'exporter des voitures, des choses comme ça, mais à ce compte-là, nous, sur l'agriculture, il n'y avait aucun intérêt pour l'Europe de rentrer dans ces négociations. En gros, on a échangé des voitures contre l'agriculture, donc on préfère sacrifier un pan de l'économie.
Des propos recueillis par Bernard Thomasson dans ce contexte tendu, la nécessaire approbation du compromis d'hier soir par les 28 États membres, puis le Parlement européen semble plus indécise que jamais. Ce fut là encore indécis pour finalement entrer dans l'ordre. Au G20 d'Osaka, la France prétend avoir bataillé pour sauver l'accord de Paris sur le climat que seuls les États-Unis ne respectent pas. Le président américain qui s'est engagé à revenir à de meilleurs sentiments à l'égard de la Chine, trêve commerciale décrétée entre les deux grandes puissances et une nouvelle facétie de Donald Trump en fin de G20. Le président américain qui propose via son compte Twitter une rencontre à Kim Jong-un. Quelques heures plus tard, la Corée du Nord a répondu. Elle a qualifié la suggestion de très intéressante, mais elle a demandé aux États-Unis d'envoyer une invitation officielle. S'il a lieu, ce sommet sera le troisième entre les deux hommes. Frédéric Ojardias est à Séoul.
Fidèle à son habitude, Donald Trump fait fi des conventions diplomatiques. C'est via son compte Twitter qu'il a proposé à Kim Jong-un cette rencontre sur la frontière pour se serrer la main et dire bonjour, a-t-il précisé. Avec une rapidité inhabituelle, la Corée du Nord a exprimé son intérêt. Un tel sommet serait une occasion significative d'approfondir les relations personnelles entre les deux dirigeants et de faire progresser les relations bilatérales, a déclaré Choi Soon-hee, vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères. Mais Pyongyang a besoin d'une invitation officielle et la Maison-Blanche en prépare une, selon la presse américaine. Donald Trump est arrivé ce soir en Corée du Sud pour une rencontre prévue de longue date avec le président sud-coréen et cela faisait déjà plusieurs semaines que Séoul bruissait de spéculations quant à un possible sommet Kim-Trump sur la frontière. Cette hypothétique rencontre, qui n'a pas été du tout préparée, se réduirait à une simple séance photo. Les pourparlers nucléaires sont bloqués et Washington comme Pyongyang restent campés sur leur position. Mais ce possible sommet sur un lieu qui symbolise cette décennie de division et d'hostilité serait tout de même significatif, estime-t-on, à Séoul. Le président sud-coréen Moon Jae-in y est favorable. Si une telle rencontre ne devrait pas permettre de progrès immédiats sur la question nucléaire, elle pourrait contribuer à relancer des négociations bloquées depuis des mois.
Retour l'espace d'un court instant au G20 pour isoler une phrase de Vladimir Poutine, le président russe qui, jusqu'à la fin de ce sommet, aura étrié ce qu'il nomme le progressisme. Et parmi les idées progressistes, il y a, selon Vladimir Poutine, je cite, « les idées de liberté sexuelle et de liberté de genre imposées aux gens qui y seraient généralement hostiles ». Fin de citation. Le combat pour l'égalité des droits et contre les discriminations LGBT part de loin en Russie. En France, il se concentre ce samedi, à la faveur de la 41e marche des fiertés, sur la procréation médicalement assistée, la PMA pour toutes les femmes. C'est un reportage à Paris de Clément Fraioli.
La chaleur est écrasante lorsque le cortège s'élance du boulevard Montparnasse à Paris. Mais pas de quoi décourager les dizaines de milliers de participants à cette marche des fiertés. Une marche placée sous le signe de la PMA et surtout de la filiation, explique Marie Bose, trésorière de l'association des parents gays et lesbiens.
On va faire passer la PMA et on l'espère. Mais à côté, il y a quoi ? C'est la filiation le plus important. Faites maintenant les choses jusqu'au bout. Moi, quand j'ai eu ma fille, son deuxième parent, c'était ma compagne. Et elle n'avait aucun droit. Est-ce que c'est normal dans notre pays de nos jours ? Est-ce que c'est normal en France, alors qu'on est dans un pays où on est libre, on est égaux logiquement ?
La marche des fiertés est née il y a pile 50 ans aux États-Unis. Et aujourd'hui encore, les agressions contre les personnes homosexuelles ou transgenres perdurent. Des agressions en hausse, selon Joël Demier, coprésident de SOS Homophobie.
On a constaté en 2018 une augmentation de 66% des agressions homophobes et transphobes signalées à notre association. Et aussi on a une augmentation des témoignages d'actes lesbophobes, donc à l'encontre des lesbiennes, une augmentation de 42% des actes lesbophobes signalés à SOS Homophobie. Donc ce sont des chiffres qui nous préoccupent et qui montrent qu'à la fois il y a une libération de la parole des victimes, elles parlent plus, elles signalent plus, mais il y a aussi un ancrage de la haine homophobe et transphobe dans notre société.
L'homophobie, Smaïl, 46 ans, y a été confronté au cours de sa vie. Des mots, des insultes qui l'ont marqué.
Bah, tapette, enculé, l'homophobie, comme ça, quand elle s'exprime directement contre vous, à un jeune âge, peut vraiment vous compliquer le parcours de votre vie.
S'affirmer, s'assumer et mettre fin aux préjugés, c'est pour ça que Clément est venu défiler aujourd'hui.
On existe, on est là et que et ben, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vivre avec nous et on est obligé de vivre ensemble. Donc essayons de le faire en bonne intelligence.
Ainsi se referme ce reportage signé Clément Fraioli à Paris. Les pays d'Afrique de l'Ouest bientôt dotés d'une monnaie unique. Une des questions principales de la réunion de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, réunie à Abuja, sommet ouvert ce matin par le président nigérian Mohamed Bouhari. Ce projet de monnaie commune, vieux de 30 ans, ressurgit régulièrement. Il pourrait ensevelir le franc CFA, cette monnaie polémique des pays autrefois colonisés par la France. Les explications de Claude Guibal.
La fin du franc CFA dans toute l'Afrique de l'Ouest, une des causes les plus populaires parmi la jeunesse et les militants panafricanistes qui y voient un symbole colonialiste, un symbole de dépendance, un symbole de servitude économique. C'est la monnaie de 8 des 15 pays de la CDAO et depuis sa création, la CDAO réfléchit à l'adoption d'une monnaie unique, une portée symbolique très forte évidemment. Mais l'échéance annoncée 2020 continue d'apparaître intenable pour les experts tant les disparités économiques sont importante dans cette zone et pour cause. La CDAO, ce sont 15 pays. Outre le franc CFA, 7 devises nationales qui ne sont même pas convertibles entre elles. La CDAO, ce sont aussi 300 millions de personnes, dont plus de la moitié pour le seul Nigeria, le Nigeria qui réalise à lui tout seul plus de 60% du PIB de cette région. Peu d'intérêt donc pour lui d'adhérer à cette nouvelle monnaie à qui il s'est longtemps opposé. Le Nigeria commence à peine à lever ses réserves, mais exige toujours des pays de la zone franc un divorce vis-à-vis du Trésor français, où les pays du franc CFA ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves de change. Mais peu à peu, les États africains semblent toutefois avancer dans leurs négociations, notamment sur les critères de convergence qui restent encore hors d'atteinte de la majorité des pays de la CEDEAO. Seul vrai point d'accord, le nom de la future devise. Après avoir envisagé les noms Afri ou Cola, le choix s'est finalement porté sur Eco, tout simplement.
En bref, la France se dit prête à accueillir 10 des 40 migrants qui ont débarqué la nuit dernière du Sea-Watch 3 à Lampedusa. La capitaine du navire de l'ONG allemande, Carola Racketeux, était arrêtée et emprisonnée. La canicule pourra fermer cette édition. 75 départements en vigilance orange avec demain première décrue des températures pour les départements du nord-ouest de la métropole. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique, Laurie Vachon.